Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Oh, give me back the good old days when Britannia ruled the waves and built a mighty empire on colonies and slaves. We were stuck in Europe, but now we can be free.
Bonjour à tous. Il faudra donc l'aval du Parlement britannique pour enclencher le Brexit. C'est ce qu'a confirmé en appel la Cour suprême de justice la semaine dernière. Et comme il ne faut vraiment plus perdre de temps, les députés de la Chambre des communes vont examiner dès demain le projet de loi mis au point par le gouvernement. Un gouvernement étonnamment serein, qui est confiant. Le Parlement devra bien lui donner les pouvoirs pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À Londres, c'est le reportage de Marie Billon.
Quand la Haute Cour de justice avait rendu son premier jugement en décembre dernier, on avait pu sentir un petit vent de panique sur Downing Street. Le gouvernement n'avait pas prévu de perdre. Avec ce jugement en appel tombé la semaine dernière, c'est une autre histoire. Le gouvernement a pu se préparer et semble ne pas craindre le vote du Parlement qui ne devrait pas remettre en cause le Brexit. Même les pro-Brexit se sont fait une raison, comme l'a dit John Huntingdale, ancien ministre et député conservateur, sur la BBC.
I'm very relaxed about this.
Cette décision ne m'inquiète pas du tout. Je crois qu'il y a un sentiment de frustration parmi ceux qui ont voté Leave et qui voient que 7 mois plus tard, nous n'avons pas beaucoup avancé. Mais je suis content d'entendre le gouvernement dire que l'article 50 sera activé. Et j'espère que le texte de loi sera approuvé le plus rapidement possible. Si la Cour suprême avait dit que les parlements régionaux avaient aussi le droit de vote, cela aurait pu ralentir le processus. Mais elle n'en a pas décidé ainsi, donc je pense que le calendrier peut être respecté.
Theresa May veut déclencher la procédure de divorce d'ici fin mars. Et pour parer à toutes les éventualités, son gouvernement avait déjà écrit plusieurs brouillons de projets de loi afin de pouvoir présenter le texte définitif au Parlement le plus rapidement possible. C'est une version courte, 137 mots, qui a été choisie. Le texte demande tout simplement aux parlementaires de donner le pouvoir au Premier ministre d'activer le fameux article 50. Le but est de passer l'étape Westminster le plus rapidement possible, mais c'est exactement ce que les plaignants, les gagnants donc de ce procès, veulent éviter. Robert Pigney est un Britannique vivant en France. Il fait partie du People's Challenge qui s'est porté partie civile.
C'est une victoire et maintenant le Parlement, j'espère, va prendre ses responsabilités au sérieux, va prendre le temps de débattre et d'examiner la chose. On est rentré dans l'Union européenne au bout d'une campagne où les parlementaires ont débattu pendant très très longtemps. Donc la logique dicterait que si on veut y sortir, on va le débattre pendant un moment pour être sûr de ce qu'on va faire.
Les députés auront cependant un temps limité, 5 jours de débat avant que le texte n'aille chez les Lords dans la Chambre haute. Pour Dominique Grieve, député conservateur pro-européen, ni la longueur du texte ni le temps imparti n'empêchera ses collègues de faire leur travail.
Même si c'est très court, c'est peut-être amendable, donc ce n'est pas impossible de le faire. Je suis sûr qu'il y aura des demandes pour plus de précision. Mais quand Theresa May a fait son discours, elle a pour la première fois expliqué un plan, un projet, un but. Ça, c'est déjà le début. Je crois que tout ce qui est nécessaire maintenant, c'est de faire peut-être quelque chose d'un peu plus détaillé en écrit, et ça serait probablement suffisant pour le Parlement.
Il pourrait en effet n'y avoir qu'un seul rebelle chez les conservateurs, Ken Clark, un ancien ministre de Margaret Thatcher, John Major et David Cameron. Jeremy Corbyn a choisi d'imposer un free line whip, une consigne, ou plus exactement un ordre à tous ses élus de voter en faveur du déclenchement de l'article. Une décision qui passe mal chez certains de ses députés. Plusieurs membres du cabinet fantôme ont déjà remis leur démission. Il pourrait y avoir une dizaine de rebelles au sein du Parti travailliste qui déposeront des amendements qui ne seront pas du goût de leur leader et qui ont déjà promis de voter contre l'article 50. Mais ce n'est pas tout. Les plus petits partis comptent aussi jouer les trublions. Margaret Ritchie est la députée de South Down en Irlande du Nord. Elle appartient au Parti social-démocrate SDLP.
J'ai fait campagne pour rester au sein de l'Union européenne. C'est pour cela qu'avec 3 autres collègues du SDLP, nous voterons contre la mise en œuvre de l'article 50. Nous allons déposer des amendements pour nous assurer que le gouvernement nous rende des comptes. Nous demanderons aussi un statut particulier pour l'Irlande du Nord, afin qu'elle reste au sein de l'Union européenne et donc dans l'Union douanière, car il ne faut surtout pas qu'une frontière sépare en deux l'île d'Irlande.
Ces mots résonnent un peu dans le grand hall de Westminster. Et au sein de la Chambre des communes, Margaret Ritchie est bien consciente que la voix de 3 députés sonnera aussi assez faiblement lors des débats.
Ma priorité, ce sont mes électeurs. Je me battrai jusqu'au bout pour eux, pour les Nord-Irlandais qui ont voté à 56% pour rester dans l'UE. Et je suis certaine que mes collègues du Parti national écossais se battront pour leurs électeurs qui ont aussi voté contre le Brexit. Je pense que de toute façon, le gouvernement devrait ralentir le processus. Je pense même que nous ne devrions pas du tout quitter l'Union européenne.
C'est aussi l'opinion effectivement des nationalistes écossais. Ils comptent déposer une 60aine d'amendements. Les travaillistes et conservateurs pourraient en proposer quelques autres, mais le Parlement n'acceptera que ceux qui seront considérés appropriés en fonction du texte de loi. Le nombre à débattre devrait donc être plus restreint. Le gouvernement s'attend à une résistance plus farouche chez les Lords, très majoritairement pro-européens. Mais il y a Duncan Smith, ancien ministre et l'un des leaders de la campagne du Leave, a lancé cet appel à la Chambre haute sur la BBC.
Les Lords ne devraient pas essayer d'aller à l'encontre de la décision prise par les députés fin 2016. Cette décision de ne pas faire dérailler le calendrier de Theresa May. Je pense que nous respecterons la date butoir du 31 mars.
En prenant en compte le calendrier des vacances parlementaires, il reste en tout 6 semaines aux députés et aux Lords pour approuver ce projet de loi.
Et alors que l'Irlande du Nord s'inquiète sérieusement des conséquences d'un Brexit qui, de fait, instaurera une frontière extérieure de l'Europe sur l'île, la République d'Irlande au Sud se souvient des grandes heures de son indépendance. À Dublin, il est désormais possible de faire une visite touristique de la capitale, un Rebel Tour, sur les traces de l'insurrection de 1916, l'Easter Rising qui conduira au divorce avec Londres et à la naissance de la République d'Irlande. Irlande. Sur place, Julien Lagache.
To our 1916 Freedom Tour of Dublin. You are all very welcome to the 1916.
Le 1916 Tour, derrière les barricades ou encore le Tour de la Liberté, autant de noms pour attirer les visiteurs qui voudraient traverser une ville tourmentée, le Dublin des rebelles de 1916. Pendant environ une heure et demie, les différents parcours racontent ces quelques jours pendant lesquels l'Irlande, alors sous domination britannique, va vivre un soulèvement armé sévèrement réprimé ensuite, mais qui amènera le pays à l'indépendance. Indépendance en 1922. Ambiance kaki, les guides arborent évidemment des uniformes militaires d'époque et invitent certains participants à en revêtir avant d'entrer dans un bus à 2 étages, couvert de photos sépia des événements, ou encore dans un camion de l'armée. Roulement de tambour, bruit d'explosion ou de tir, de quoi plonger le touriste au cœur de l'action comme s'il la vivait, jusqu'à lui proposer de mini-reconstitutions jouées par des acteurs professionnels qui reprennent sur les lieux emblématiques les moments marquants de l'insurrection. Ces fragments légendaires se déroulent sur des itinéraires qui varient, mais comme on ne réécrit pas l'histoire, honneur au GPO sur O'Connell Street, le grand bureau de poste qui fut pendant 6 jours le quartier général des rebelles, où l'un de leurs leaders, Patrick Pearse, proclama la République d'Irlande le 24 avril 1916. Plus au sud-est, non loin des anciens docks, aujourd'hui siège de Google et de Facebook, passage devant Boland's Mill, le bâtiment de 1830, délabré, qui servit de caserne pour une centaine de combattants anti-britanniques sous le commandement d'Eamon de Valera, futur président irlandais. Le château de Dublin, siège du commandement britannique, est ensuite évidemment sur le chemin, juste avant la célèbre brasserie Guinness, théâtre d'un massacre de civils lors des affrontements. Et bien sûr, impossible de faire l'impasse sur la prison de Kilmainham, où furent fusillés, début mai 1916, les leaders de l'insurrection, Patrick Pearse, James Connolly ou encore Sean Houston, martyrs devenus légendes de la République et dont les noms sont désormais inséparables de rues ou de gares à Dublin.
Dit heb je allemaal wijs kunnen maken aan je zoontje van 8.
Et si les Pays-Bas se retrouvaient avec un dirigeant de la trempe d'un Donald Trump? C'est sur un mode très humoristique que les Néerlandais tirent les conséquences d'une élection qui bouleverse l'ordre mondial. Une vidéo sans concession fait un malheur sur les réseaux sociaux. Elle dit surtout le malaise d'un petit pays qui ne peut plus compter sur le soutien américain. Aux Pays-Bas, Antoine Moutot.
Ceci est un message du gouvernement des Pays-Bas.
La vidéo commence très sérieusement. Au premier coup d'œil, elle ressemble à une campagne ordinaire de promotion touristique des Pays-Bas. Et c'est à ce moment précis que le ton est donné.
Dear Mr. President.
Cher Président, bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux Pays-Bas. Ça va être une grande vidéo.
La façon de s'exprimer et l'éthique de langage de Donald Trump sont repris à merveille. La voix de la vidéo entame alors une présentation ahurissante des Pays-Bas, une version très simpliste, pleine de clichés et complètement erronée de l'histoire et de la culture du pays. Mais justement, prévient l'émission satirique Zondar Met Plubar, le message est fait pour plaire à Donald Trump.
Nous parlons le néerlandais. C'est la meilleure langue en Europe. Nous avons les meilleurs mots. Toutes les autres langues ont échoué. Le danois, un désastre. L'allemand, ce n'est même pas une vraie langue. C'est une contrefaçon.
L'un des passages les plus hilarants, c'est certainement celui où la voix de présentation vante les mérites de l'Afsluitdijk, en français la digue de fermeture, une immense digue qui sépare la mer des Vaden du lac de l'Eisel.
Voici l'Afsluitdijk. C'est un grand, très grand mur. Nous l'avons construit pour nous protéger des eaux du Mexique.
Et comme si cela ne suffisait pas, la voix de présentation en rajoute une couche.
Nous avons même construit tout un océan qui nous sépare du Mexique. Personne ne sait construire des océans mieux que nous. Cet océan est tellement grand qu'on peut le voir depuis la Lune. Et nous avons fait en sorte que les Mexicains payent pour cet océan.
La vidéo joue ici sur les plus grands clichés sur les Pays-Bas gagnés sur la mer, et dans ce cas précis sur le dicton selon lequel Dieu a fait le monde, mais les Néerlandais ont fait les Pays-Bas. Et puis, il y a ce passage à mourir de rire où l'émission satirique se moque des frasques sexuelles de Donald Trump.
Nous avons aussi Schlaraffen. C'est le meilleur parc à poneys du monde. Nous avons les meilleurs poneys. Vous pouvez les chevaucher, sortir avec eux. Et vous pouvez même les attraper par le pony. C'est génial.
Pour séduire davantage le nouveau président des États-Unis, la vidéo cite la fête très controversée de la Saint-Nicolas, où les serviteurs de celui qui chaque année distribue les cadeaux aux enfants sont noirs. Une fête raciste que Donald Trump va adorer, dit le présentateur de l'émission. Et il y a aussi cette invitation à venir placer son argent aux Pays-Bas, un paradis fiscal qui devrait plaire à Trump.
Nous avons le meilleur système d'évasion fiscale que Dieu ait créé. C'est tout simplement incroyable. Vous devriez dire à vos fils de mettre tout l'argent de leurs entreprises ici. Vous ne paierez pas une seule taxe, zéro. C'est rien du tout.
Puis la voix adresse une question cruciale au nouveau président.
Pour conclure, nous sommes vraiment très, très dépendants des États-Unis. C'est énorme. Si vous fichez en l'air l'OTAN, vous allez rendre nos problèmes great again. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous comprenons très bien que désormais, ce sera les États-Unis d'abord. Mais serait-il possible de mettre les Pays-Bas en deuxième place ?
Derrière beaucoup d'humour pour tacler le récent « l'Amérique d'abord » de Donald Trump, la vidéo soulève de véritables questions. D'abord parce qu'en effet, les Pays-Bas sont très dépendants des États-Unis. Gene Scott Smith est professeur à l'université de Leiden. Il est spécialisé dans les relations américano-néerlandaises.
En termes de dépendance des Pays-Bas vis-à-vis des États-Unis, il y a d'abord la question de l'OTAN. Les États-Unis sont l'une des puissances les plus importantes de l'OTAN, notamment en ce qui concerne leur engagement pour la sécurité en Europe. Donc si les États-Unis décident de changer ça, cela pourrait grandement préoccuper les Pays-Bas. Mais économiquement aussi, les échanges entre les deux pays sont très importants et interdépendants, surtout dans le secteur de l'investissement.
Des liens forts entre les Pays-Bas et les États-Unis qui, selon Jill Scott Smith, puisent leur source dans l'histoire.
Il y a une véritable connexion historique et culturelle. À la base, New York s'appelait New Amsterdam. Les Néerlandais ont été parmi les premiers Européens à s'installer sur la côte des États-Unis d'aujourd'hui. Plus tard, au XXe siècle, les liens économiques entre les deux pays se sont développés. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, on soutient encore très fortement le rôle que doivent jouer les États-Unis en Europe. Historiquement, les Pays-Bas ont souvent été très vulnérables face à des pays d'Europe puissants, comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Et c'est justement pourquoi les Néerlandais voient les États-Unis comme un contrepoint en Europe. Hegemonic
balancing role in Europe. Aujourd'hui, en plus des liens historiques et des échanges commerciaux, la culture américaine est très présente aux Pays-Bas, l'anglais aussi. Et contrairement à des pays comme la France ou l'Allemagne voisine, la grande majorité des Néerlandais n'avaient pas peur de traités transatlantiques comme le TAFTA, donc les idées isolationnistes de Trump ne sont pas pour rassurer une partie des Néerlandais. Pour l'instant, aux Pays-Bas, seule l'extrême droite et son chef de file Geert Wilders soutiennent la politique annoncée de Donald Trump. Reste à savoir pour combien de temps encore.
Thank you for watching and best wishes. We've got the best wishes in the Netherlands. They're great. It's true.
C'est l'histoire d'une grande incompréhension entre la Hongrie et le reste de l'Europe. Le dialogue est bloqué, en cause le discours anti-UE et anti-migrant du Premier ministre Viktor Orban. Mais ce que nous explique la journaliste Françoise Ponce dans son livre « Hongrie, l'angoisse de la disparition » publié dans la collection « L'âme des peuples », c'est que les Hongrois se sentent à la fois isolés et incompris. Elle répond aux questions de Catherine Roland.
C'était certainement l'un des peuples d'Europe centrale qui avait le plus d'espérance, je dirais pas naïve, mais presque, enfin, un espoir fou de rattraper l'Autriche le plus rapidement possible. Cet espoir fou énorme a été un petit peu déçu, puisque c'est le seul pays, de tous ceux qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004, c'est le seul pays qui n'a pas connu de croissance économique intéressante. Et puis, ils ont vu arriver tous ces produits occidentaux, ils se sont dit, mais en fait, on est colonisé. Voilà, toujours ce syndrome de la colonisation qui est toujours là par derrière chez les Hongrois.
Vous décrivez aussi l'âme de ce peuple, hein. Vous parlez d'une espèce de mélancolie, hein, un profond pessimisme, en témoigne notamment leur musique. Et en même temps, hein, c'est un paradoxe, il y a un grand humour. Alors, ce qu'on veut dire, c'est une nation bipolaire finalement.
Ils se définissent comme rhapsodiques, c'est-à-dire à la fois eh bien, passant par différents états d'âme. Et c'est vrai qu'ils peuvent passer du plus grand pessimisme en un quart de seconde jusqu'à l'optimisme total. C'est un peuple bien attachant, en fait, par ses grandes contradictions aussi.
Un peuple attachant, mais qui a également cette angoisse de la disparition. Alors, il faut le prendre d'ailleurs aussi de manière très littérale, hein, car il y a un véritable défi démographique en Hongrie. Les femmes, par exemple, font de moins en moins d'enfants.
Effectivement, la crise a angoissé le peuple hongrois et donc les femmes font moins d'enfants. C'est certain. Puis les jeunes sont partis vers l'Europe de l'Ouest pour travailler ou faire des études et donc ça, ils ne reviennent pas nécessairement. Donc cela crée encore un vide démographique, mais qu'ils n'ont pas non plus envie de remplacer par des personnes qui leur seraient imposées.
C'est la question, la fameuse question des réfugiés. Pas question effectivement d'accepter ces migrants. Pourtant, qui pourrait effectivement remonter la démographie, c'est une question identitaire.
C'est une question d'indépendance aussi, parce qu'ils se disent, mais pourquoi Bruxelles déciderait des personnes avec qui je dois vivre ? La question des migrations résonne très profondément en eux, et ils se demandent, oui, on commence par 2300, ce n'est pas un problème, combien d'autres on devra en recevoir ? Donc, ils s'attendent à une gestion de la politique migratoire beaucoup plus contrôlée, en fait. Également, je voulais dire quand même que le mur qu'ils ont construit, qui fait la honte pour Bruxelles, enfin de, mais pour les Hongrois, c'est vraiment l'application de Schengen. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'incompréhension, alors qu'ils disent oui, nous défendons Schengen, nous sommes la frontière extérieure, et là, qu'est-ce que vous nous demandez ?
Hongrie, l'angoisse de la disparition de Françoise Ponce est publiée dans la collection L'âme des peuples. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.